suite des pérégrinations jour 2 pour la tête au carré ici à Rimouski au Québec à l'occasion du congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir qui nous accueille donc ici pendant 3 jours. Nous sommes au bord du fleuve Saint-Laurent et c'est justement l'objet de notre discussion cet après-midi avec mes invités pour parler de l'écologie de ce fleuve gigantesque, du problème de son acidification et puis de l'impact des substances chimiques sur la santé des organismes marins. L'émission étant enregistrée avec le décalage horaire, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude, mais je salue le public de Rimouski qui est venu ici assister nombreux à l'émission et que je salue très chaleureusement. Bonjour à tous et à toutes. Les Québécois l'appellent l'herbe à poux. Alerte sur l'ambroisie, cette plante au pollen très allergène qui est en train de profiter du réchauffement climatique. Et c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard.
Eh oui, bonjour Mathieu. Malheureusement pour tous les allergiques qui nous écoutent, des chercheurs du CNRS prédisent une multiplication par 4 des concentrations de pollen d'ambroisie d'ici 2050. On en parle dans un instant avec nos invités pour la une.
Violaine Ballet est aux commandes de cette nouvelle Tête au carré québécoise. Et c'est Lucie Sarfati qui a préparé le dossier.
La Tête au carré sur les rives du Saint-Laurent. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'est donc l'écologie du fleuve Saint-Laurent qui nous intéresse cet après-midi avec mes invités Gaëche Winkler, Gustavo Ferreira, Michel Fournier et Boukhar Diouf. Bonjour à tous les quatre. Et puis je salue également trois jeunes Français qui sont ici en stage à l'université de Rimouski, Clémence, Camille et Elliot. Bonjour.
Bonjour
à tous les trois, ravis de vous avoir croisés ici à Rimouski. Boukhar Diouf, scientifique et humoriste, c'est pas incompatible apparemment puisque vous avez les deux casquettes et vous êtes le porte-parole officiel de ce 83e congrès de l'ACFAS.
Effectivement, moi je pense que science et humour ça va ensemble et en plus en science on n'a pas besoin d'écrire. Quand on fait de l'humour et... On a parcouru la science beaucoup, on n'a pas besoin vraiment d'écrire, on a besoin juste de raconter les choses.
Ouais.
Moi, je fais un spectacle présentement autour de la reproduction humaine,
c'est vrai,
qui s'appelle pour une raison X ou Y, et juste de raconter aux gens comment le spermatozoïde a été découvert au XVIIe siècle par Van Leeuwenhoek, qui était un marchand de tissus hollandais.
Ouais.
J'ai pas besoin de rajouter d'autres choses, c'est drôle.
C'est vrai. Quand on parle d'animalcule, par exemple, c'est très rigolo.
Voilà, d'expliquer aux gens qu'autrefois, les chercheurs, ce qu'on appelait les préformistes à l'époque, qui pensaient que dans le spermatozoïde, dans la tête du spermatozoïde, il y avait un petit animal miniature qu'on appelait l'animalcule,
oui,
et que la femme n'avait aucun rôle dans la fécondation. Et ça fait réagir dans la salle. Alors.
On va parler de science, on va parler de Rimouski, parce que vous êtes né une seconde fois ici à Rimouski. Vous allez nous raconter votre histoire, Boukhar Diouf, dans un instant. Merci. Et vous êtes biologiste à la base. Gustavo Ferreira, le fleuve Saint-Laurent n'est pas épargné, on va le voir avec vous, par le phénomène d'acidification qu'on observe d'ailleurs dans beaucoup d'océans du globe, mais c'est le cas également dans le fleuve ici.
Oui, évidemment, c'est un phénomène global. Puis ici, dans les cas particuliers du Saint-Laurent, c'est beaucoup plus intense, mais il y a des autres raisons. Ce n'est pas juste les échanges entre l'atmosphère et l'océan qui jouent.
On verra ces raisons avec vous dans quelques minutes. Gaëche Winkler, le Saint-Laurent, ce sont aussi ces baleines, évidemment. Et ce qui vous intéresse, c'est leur nourriture, le krill.
Oui, tout à fait. On travaille ici sur le krill. C'est la clé de voûte de notre écosystème, car lui, il mange des petits organismes comme le phytoplancton et le zooplancton et transfère toute cette énergie-là à des poissons et des grands mammifères marins.
Oui, et c'est l'objet de vos recherches et de vos observations. Oui. Là aussi, on va en discuter. Michel Fournier, la moule bleue vous intéresse beaucoup ici dans le fleuve. Mais pourquoi donc?
À cause de son caractère d'espèce sentinelle, qui peut à ce moment-là nous indiquer la présence de toxiques dans des sites précis et le transfert dans la chaîne trophique. On étudie jusqu'aux baleines les effets toxiques des substances du fleuve.
Et Camille et Clémence, qui sont étudiantes françaises, s'intéressent aussi à l'impact du pétrole sur les moules bleues. Et puis Elliot, lui, étudie les espèces invasives dans le Saint-Laurent. Donc on aura plein de choses à se raconter pendant cette émission. Avant cela, la une de la science que nous avons enregistrée comme hier, ce matin, dans les studios de Radio-Canada. Ici, les Québécois l'appellent l'herbe à poux.
À l'école, j'ai fait une recherche sur l'herbe à poux. En juin, la plante est plus petite. En juillet, elle est un petit peu plus grande. Puis en août, c'est là que les allergies débutent. On peut l'arracher, la couper ou planter autour des fleurs ou, mettons, du trèfle. Parce que ça pousse bien, puis ça pourrait l'empêcher de pousser. Je reconnais et je contrôle l'herbe à poux.
Et c'est donc l'herbe à poux ou l'ambroisie qui est à la une de la science aujourd'hui. Cette plante et surtout son pollen très allergène pourrait voir ses quantités quadruplées à l'horizon de 2050 en Europe. C'est à la une de la science donc aujourd'hui. Robert Votard et Nicolas Viovi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux chercheurs au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay pour le CNRS. Et c'est vous qui publiez donc ces résultats préoccupants dans le journal Nature Climate Change. Robert Votard, les allergiques ont du souci à se faire visiblement avec l'explosion annoncée de l'ambroisie, hein.
Oui, tout à fait. Nous soupçonnons effectivement que d'ici le milieu du 21e siècle, les concentrations d'ambroisie soient multipliées au moins d'un facteur 2 en Europe, avec des variations d'un pays à l'autre.
C'est le pollen d'ambroisie qui est à l'origine de ce qu'on appelle le rhume des foins.
Alors, le rhume des foins est une appellation générale, mais le pollen d'ambroisie poursuit la saison des allergies, qui commence en général au printemps, mais là, le pollen d'ambroisie se manifeste à partir du mois d'août et continue jusqu'au premier froid.
Nicolas Viovi, qu'est-ce qui lui plaît tant à cette ambroisie avec l'emballement des températures ?
Ben, c'est une plante qui donc aime des températures relativement clémentes. Comme l'a dit Robert, c'est une plante assez tardive, donc en général, son cycle se termine en fait avec les premières gelées. Et donc le fait que les températures augmentent, évidemment, vont lui permettre d'avoir un cycle végétatif plus long et produire plus donc de fleurs et donc plus de pollen.
Robert Votard, nous sommes au Québec en ce moment. Et justement, je crois que l'ambroisie, c'est une espèce invasive importée d'Amérique du Nord.
Oui, elle vient d'Amérique du Nord. Elle est arrivée en Europe au 19e siècle, mais c'est réellement propagée et densifiée à partir du milieu du 20e siècle. Et aujourd'hui a atteint la France, hein, donc au niveau de la région Rhône-Alpes et du couloir rhodanien, et progresse en France et dans d'autres pays également.
Ça va s'étendre à tout le territoire ?
Alors, bien sûr, le futur dépend également de la façon dont on va gérer cette plante, mais pour le moment, elle s'étend et il n'y a pas de raison qu'elle ne progresse pas partout sur le territoire. Peut-être à une exception, celle des régions extrêmement sèches du Midi, parce que la plante supporte assez mal les grandes sécheresses prolongées, comme dans les régions autour de la Méditerranée.
Et quand vous redessinez finalement la carte de l'ambroisie, donc là, il faut vraiment redessiner les choses et découvrir de nouveaux territoires.
Oui, alors avec le changement climatique, de nouvelles niches pour cette plante vont se profiler, notamment en Europe du Nord et dans le sud de l'Angleterre, où elle est soit absente, soit extrêmement peu présente. Mais comme le disait Nicolas Viovi, l'extension de la saison de floraison va lui permettre de se reproduire et donc de s'établir dans des régions où elle n'existe pas aujourd'hui.
L'homme est en partie responsable de l'expansion de l'ambroisie ?
Alors, à divers titres, la première raison, c'est l'introduction de cette plante en Europe par le commerce. Et aussi, cette plante, qui est une plante opportuniste, s'établit sur des régions et des terres qui sont fortement perturbées, comme les territoires agricoles, mais les zones urbaines également et les zones périurbaines. Donc l'homme est responsable, satisfait son développement, et via le réchauffement climatique, l'homme permet également de nouvelles niches pour cette plante.
Comment est-ce que vous avez travaillé justement pour obtenir ces estimations, Robert Votard ?
Alors nous avons pour la première fois mis bout à bout une suite de modèles, des modèles de climat, des modèles d'utilisation des sols, des modèles d'écologie. Nicolas Viovi a mis au point un modèle de production de la plante. Nous avons un modèle de dispersion du pollen dans l'atmosphère. Et c'est cette mise bout à bout qui est une première pour l'étude de l'impact du changement climatique sur ce pollen.
Quelles sont les stratégies aujourd'hui concrètement pour pouvoir lutter contre cette plante ? Parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans ce domaine.
Alors oui, c'est assez compliqué, hein, parce que évidemment les plantes, contrairement à ce qu'on peut avoir pour de la pollution, on peut pas, les automobilistes, on peut leur demander de ralentir, on peut pas demander aux plantes de produire moins de pollen. Donc il y a deux stratégies. Il y a la stratégie qui consiste à effectuer des campagnes d'arrachage, hein, pour essayer de limiter au maximum la progression de l'ambroisie. Donc ça, c'est une première approche. Et puis l'autre, c'est une approche de prévention. qui consiste à prévenir les gens donc des fortes périodes de forte concentration pour que les gens évidemment limitent au maximum leur sortie et puissent aussi avoir des traitements adéquats. Alors pour ça il existe déjà le réseau national de surveillance aérobiologique qui donne des bulletins sur la présence de pollen et dans l'avenir on devrait voir le développement de chaînes justement grâce aux outils qu'on a pu développer là, de chaînes qui permettent de prévoir à quelques jours des événements de pic de pollen comme ça peut être fait pour d'autres polluants.
Merci beaucoup. En tout cas, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes, hein, on l'a compris. Donc, avec ce pollen d'ambroisie qui risque de quadrupler à l'horizon 2050, c'est l'objet de votre publication, Robert Votard et Nicolas Viovi. Merci beaucoup pour vos précisions. Très bonne journée à tous les deux. Merci beaucoup.
Au revoir.
Axel, on pourra écouter bien sûr cette Une de la Science, comme toujours, même ici, du
même
Québec.
Même de Rimouski, on peut l'écouter sur franceinter.fr, les podcasts. Et même les Québécois peuvent écouter toutes les Unes de la Science depuis le début de l'année.
Absolument. Et on revient avec le public justement de Rimouski pour la suite de l'actualité scientifique. En bref, des scientifiques viennent de trouver un moyen de créer des fruits géants. Cette découverte importante nous vient d'une équipe américaine qui essayait de comprendre pourquoi certaines tomates mutantes avaient des tailles exagérément grosses. Ils ont découvert que tout se jouait au niveau des cellules souches qui se trouvent au bout des tiges de la plante dans une région appelée le méristème. En stimulant ces cellules, ils sont parvenus à obtenir des fruits d'une très grande taille, mécanisme qui est le même chez la plupart des plantes et qui pourrait s'appliquer à de très nombreux domaines de l'agriculture. Stocker de l'information numérique sous forme de molécules, des chercheurs français du CNRS sont pour la première fois parvenus à inscrire un code binaire sur un polymère synthétique. De la même manière que notre ADN conserve durablement une énorme quantité de données génétiques, les chimistes de l'Institut Charles Sadron de Strasbourg sont parvenus à synthétiser et à lire un message de plusieurs bits sur un polymère artificiel. Voilà peut-être une solution au problème très contemporain du big data, les quantités d'informations numériques produites chaque année dans le monde et dont une grande partie est perdue à jamais faute de moyens de stockage durable. Et puis pour finir, transformer des moustiques femelles en moustiques mâles pour sauver des vies, cette drôle d'idée vient d'être publiée dans la revue Science par une équipe internationale. Les chercheurs ont identifié chez le moustique Aedes aegypti un gène qui permettrait de partiellement transformer les femelles qui piquent et transmettent à l'homme des maladies comme la dengue, la malaria ou la fièvre jaune en de gentils mâles tout à fait inoffensifs pour l'homme. Une piste qui pourrait s'avérer très intéressante pour une meilleure gestion des populations de moustiques et des épidémies dans les régions tropicales. Allez, cap sur le fleuve Saint-Laurent dans un instant dans le dossier de la Tête au Carré avec mes invités ici à l'ACFAS. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name? And your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name, and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, fiending an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out top. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bar. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, black disclaimer to tape. Well, actually show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass.
What's it that?
And with the straightest face, I be like,
hell yeah.
I slip
yes,
them the digits yes, and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Check it out. And
Jackson Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Then piles and piles of demo takes about a mile. All I wanna do is cut on the tech crowd, but addition of fear, brother mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse, getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I don't do act devil. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a date to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're all
ring, 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 De La Soul à l'instant sur France Inter.
Les journées québécoises, de la tête au carré sur France Inter.
La tête au carré donc à Rimouski à l'occasion du congrès scientifique de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, et c'est donc le fleuve Saint-Laurent qui est là, hein, quelques mètres de nous et qui est au cœur de nos discussions avec mes invités. Et le premier que je souhaite vous présenter est Boucard Diouf. Boucard, vous êtes scientifique, humoriste, porte-parole donc du congrès cette année. Et vous avez une belle histoire parce que vous êtes arrivé du Sénégal ici à Rimouski en 1991. Donc vous êtes passé directement de la savane aux rives du Saint-Laurent.
Voilà.
Et quel souvenir vous gardez de votre découverte du fleuve ici ?
Mais la beauté. La beauté, mais aussi le froid. Parce que c'est.
Oui,
ça,
j'imagine.
On voit le fleuve comme ça, bleu. Mais quand l'hiver arrive, moi, mon premier hiver, quand j'ai vu les camions circuler dessus, et tu dis OK, il est où le fleuve ? On te dit il est sous la glace. Là, tu dis, OK, les gens pêchaient. Je voyais les gens faire des trous pour pêcher. J'ai dit, quoi, ils pêchent du poisson surgelé ou... Et ça... mais surtout la beauté. Je pense que je pouvais me sentir un peu comme s'est senti Jacques Cartier la première fois. Parce que parler de la transformation des moustiques mâles en femelles,
oui.
Les femelles en mâles, pour éviter qu'ils piquent. Mais les premiers explorateurs français qui sont arrivés ici, comme Cartier en 1934, ils ont parlé des moustiques. Ils pensaient que c'est les Indiens qui vont leur tirer des flèches, mais c'est les maringouins qui les ont eus.
Ouais.
Alors, donc... Mais le froid a été... Moi, je pense que le froid, c'est un événement marquant dans ma vie.
Et le fleuve. Vraiment, vous le dites, hein, à quel point ce fleuve Saint-Laurent est important pour vous.
Oui, pour les Québécois aussi.
Ouais.
Pour tout le monde. Moi, je pense que l'histoire de l'Amérique du Nord s'est jouée ici, dans le Saint-Laurent. Quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on sait que c'était la porte d'entrée des Amériques, le Saint-Laurent. Et puis, c'est un fleuve extraordinaire. 80% de la population du Québec vit sur les bateaux du Saint-Laurent. Et puis, 60% boivent l'eau du Saint-Laurent. Alors, c'est important pour nous. J'ai un sentiment d'attachement parce que c'est le fleuve qui m'a amené ici. Moi, je suis venu en océanographie ici.
Oui.
Et mon premier lien avec le Québec, c'était l'eau du Saint-Laurent.
C'est vrai. Et vous avez étudié quoi? Les poissons blancs, c'est ça?
Les éperlans.
Oui.
Les éperlans, c'est un poisson qu'on pêche sous la glace. On fait un trou, là.
Oui.
Tu rentres la ligne là-dedans et tu t'assois sur une caisse de bière. C'est la meilleure façon de pêcher. Alors...
C'est vrai. Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui avec le réchauffement climatique? On arrive encore à pêcher convenablement ici?
Ben, je pense que oui. Hein? Tu peux demander aux chercheurs encore très actifs. Là, je pense que oui, on pêche.
Oui, en tout cas, ici, le petit village sur le fleuve était bien installé cette année. Il faisait froid, la glace était dure et je pense que les pêcheurs y ont pris assez pour se régaler avec.
Oui. En buvant donc une petite bière, tranquillement.
Oui, certainement.
Boucard, vous avez fait de la biologie, vous avez enseigné ici, à l'Université de Rimouski.
Oui. J'ai enseigné 8 ans ici à l'UQAR avant de... Moi, je suis un biologiste qui a mal tourné, en fait.
Puisque
et
vous êtes
je me suis
humoriste.
Ramassé sur la scène. Mais aujourd'hui, je fais du spectacle autour de la science. Donc, je suis resté quand même dans la vulgarisation. C'est ce que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est vraiment prendre ce que font les Gustavo et les autres et l'emballer, changer l'emballage et l'amener au grand public. Un peu comme vous faites avec la tête au carré.
Mais, mais quand est-ce que vous venez en France nous présenter votre spectacle, Boucard?
J'aimerais bien ça.
Ben, nous aussi, on aimerait bien.
J'aimerais bien ça. Mais je pense que mon spectacle pourrait passer en France. Surtout.
C'est sûr.
Oui, oui, oui.
Et vous avez aussi un programme sur Radio-Canada toutes les semaines qui s'appelle La Nature selon Boucard.
Voilà.
Et là aussi, ce sont les relations... homme-animal qui vous intéresse?
Oui, c'est ça. Je prends un phénomène naturel et j'essaie de faire le lien avec les comportements humains. Comme aujourd'hui, on fait un enregistrement qui va parler du loup et de l'autorité.
Ouais.
La hiérarchie est stricte. Moi, j'ai vécu avec un papa qui était un chef de meute. Et avec mes enfants, je suis comme un agneau dans un bungalow. Alors, où se trouve la vérité?
Ouais.
C'est ça que je veux comprendre.
Et Boucard, vous êtes donc le porte-parole du congrès de l'ACFAS cette année. Vous dites qu'ici, c'est un peu le Woodstock de la science. Je trouve que c'est une très bonne image.
Exactement.
Pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de chercheurs, 3500 chercheurs. On l'a dit déjà hier, mais c'est inouï comme rendez-vous.
Oui, c'est beaucoup de monde. C'est le plus gros rassemblement de la francophonie en la matière.
Ouais. Mon petit doigt m'a dit que c'était votre anniversaire aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Il a 50 ans aujourd'hui, Boucard Diouf.
Oh. Merci beaucoup.
Il a 50 ans et c'est également l'anniversaire de notre réalisatrice Violaine Ballet qui est ici. Je voudrais qu'on applaudisse pareil.
Bravo.
Elle est là avec son casque.
Vive les Gémeaux.
Et je ne dirai pas son âge, effectivement. Donc vous allez pouvoir partager un gâteau ensemble, Boucard et Violaine.
Ah, merci beaucoup.
On veut cette photo souvenir de notre passage ici à l'ACFAS. Boucard, je sais que vous êtes très occupé en tant que porte-parole officiel, donc je vais vous laisser filer parce que vous avez affaire aujourd'hui. Et puis vraiment, j'aimerais qu'on vous voit sur scène avec votre spectacle de vulgarisation scientifique ou vous écoutez au moins sur Radio-Canada parce que les Français peuvent le faire. On se donne rendez-vous en France dans les mois qui viennent.
Merci,
Mathieu,
avec grand plaisir.
Merci. Boucard Diouf, donc, qui était avec nous pour démarrer cette tête au carré pour parler donc de l'écologie du fleuve. Clémence, Camille et Elliot, trois jeunes étudiants français que j'ai croisés hier par hasard au moment de l'inauguration justement du congrès. Vous êtes en master de deuxième année, mais comment est-ce que vous avez atterri ici à Rimouski, Elliot?
Finalement, c'est un petit peu par hasard. Quand je suis arrivé ici à Rimouski, j'avais fait des demandes pour rentrer du coup par l'immigration, et ces demandes-là, on nous demande de trouver un directeur de stage avant de pouvoir rentrer au Canada. Et j'y suis allé complètement au culot, c'est-à-dire que je suis allé voir sur le site de l'ISMER, je suis allé voir les chercheurs qui étaient, et j'ai tenté ma chance. J'ai demandé s'ils étaient d'accord pour pouvoir prendre un étudiant, et puis ensuite on a créé un sujet tous ensemble, et me voilà ici depuis janvier.
Voilà, et hier quand on s'est croisés, vous m'avez dit « Ah, j'écoute la tête au carré depuis que je suis tout petit, j'ai pris un coup de vieux comme ça grâce à vous, c'était extraordinaire. » Voilà, donc vous faites vos études avec également Camille et Clémence, même chose, vous êtes arrivés ici dans le cadre de vos recherches.
Oui, tout à fait, c'était pour la fin de la maîtrise, et un peu comme Elliot, en cherchant un stage, j'avais regardé un peu l'étranger, c'est vrai que j'avais le Québec dans la ligne de mire, et j'ai regardé un peu ce qui se faisait en OCO, donc pour moi en écotox marine, et du coup là je suis tombée sur le projet de
écotox marine. Ça veut dire quoi?
L'écotoxicologie marine, en fait, c'est d'étudier l'impact donc sur l'environnement marin des polluants, et donc là en ce moment c'est sur le pétrole.
Alors là vous avez un maître devant vous, c'est Michel Fournier quand même, c'est son sujet aussi, Michel Fournier, vous, ce sont les moules bleues, on le disait tout à l'heure, mais c'est exactement le sujet sur lequel vous travaillez,
Oui, il travaille depuis 35 ans sur différentes espèces marines, et en particulier depuis une dizaine d'années, la moule bleue à cause de son potentiel de sentinelle.
Donc les étudiantes auront certainement des questions à vous poser tout à l'heure. Clémence, comment vous êtes atterrie, vous, ici à Rimouski?
C'est un peu dans le même esprit que Elliot et Camille. En regardant ce qui se faisait au Québec. Et, et du coup, l'ISMER est apparu comme un important institut de la mer et avec une chaire de recherche en écotoxicologie. Et du coup,
c'était évident que vous alliez travailler ici, dans ce domaine. Elliot,
c'est vrai que Rimouski est quand même assez connu dans le milieu de l'océanographie en France.
C'est vrai. Et d'ailleurs, Gustavo Ferreira, l'Institut maritime France-Québec, qui va s'implanter en 2016 ici à Rimouski, c'est justement ce lien entre les Français et les Québécois?
Oui, c'est ça qui a été annoncé récemment. Je pense qu'on a une excellente opportunité pour développer notre recherche ensemble avec la France.
Oui.
Puis il y a des autres pays ici aussi apparemment, mais en principe la France, Québec...
C'est vrai, parce qu'on a beaucoup de choses en commun au fond. Ce sont des pays, ce littoral québécois ou français, et il y a beaucoup de choses qu'on a à partager.
Et on collabore tout le temps avec
ces recherches.
Les partenaires français.
Gustavo Ferreira, le Saint-Laurent, c'est un des plus grands fleuves du monde, plus de 1000 km de longueur, 1100 km, un petit peu plus. Et c'est donc un fleuve qui fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques ici au Québec.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs universités, beaucoup de gens impliqués dans ça, mais il faut clarifier les concepts. Ce n'est pas le fleuve Saint-Laurent, c'est un système. C'est un système constitué par les fleuves et par la partie maritime, la composante maritime, qui est divisée en deux, l'estuaire, ce qu'on a ici en face, l'estuaire maritime, puis le golfe. Donc c'est des systèmes surtout intimement reliés pour l'influence qu'ils sont des maritimes, marines.
C'est ça. Donc, on ne sépare pas l'océan du fleuve Saint-Laurent,
c'est ça.
Évidemment.
C'est une région d'interface.
Il y a des interactions
complexes.
Entre les deux complexes. Ouais. Et vous, ce qui vous intéresse depuis quelques temps maintenant, c'est ce problème de l'acidification du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Comment est-ce que vous l'étudiez? Donc c'est vraiment un travail de terrain, là, a priori?
Oui, on fait des travaux de terrain pour faire l'observation, évidemment, puis on fait beaucoup de travail expérimental aussi. Mm-hmm. Puis on inclut aussi la modélisation dans notre modèle de travail. On a commencé très récemment, ce n'est pas une vieille ligne de recherche qu'on a ici à Izmir. Même à niveau international, c'est nouveau relativement. Donc on a commencé il y a 12 ans, on a fait une mission océanographique ici dans la région de l'estuaire maritime, puis on a fait une expérimentation l'année passée avec des mésocosmes. Oui. C'est des grosses unités qui reproduisent les conditions naturelles le mieux que possible à ce moment. Donc on a forcé notre système avec des conditions d'acidification présentes et futures.
Oui.
Puis on a simulé en même temps la question de la température, c'est-à-dire l'augmentation de la température qu'on attend d'ici à Sainte-Anne à peu près.
On va partir à Sainte-Anne-des-Monts. Il y a le musée Explorameur qui justement offre la chance aux visiteurs de devenir océanographe le temps de quelques heures avec une excursion scientifique qui s'appelle le Laboratoire sur la mer. Et précisément, les visiteurs prennent part à la collecte des données dans le but d'étudier l'impact de l'acidification des eaux du Golfe.
Tu peux prendre une place dans la cabine.
Ces visiteurs s'apprêtent à faire bien plus qu'une simple excursion sur le Saint-Laurent. Ils participeront à l'avancement de la science. À bord du bateau laboratoire, une panoplie d'instruments d'océanographie.
On peut voir la délimitation donc, d'une partie plus pâle, d'une partie plus foncée. Donc,
les apprentis scientifiques participent à la collecte de données. Ils mesurent la température et la salinité de l'eau, ils observent la présence de phytoplancton et surtout, ils notent l'acidité du fleuve.
On note une acidification globale des océans, donc due à la quantité de CO2 qui augmente, donc il y en a plus aussi dans l'eau, ce qui la rend plus acide.
On s'est rendu compte aussi parallèlement à ça que les buccins du Saint-Laurent et plusieurs autres mollusques avaient de plus en plus des anomalies par rapport à leur coquille. On voit de plus en plus des trous.
Chaque sortie en mer est accompagnée d'une opération de marquage des buccins. Les visiteurs apposent une petite étiquette sur les mollusques et prennent des notes sur l'état de leurs coquilles.
On va pouvoir comparer sur une échelle de 5 ans leur taux de croissance, puis s'ils se dégradent dû à l'acidité. Donc, s'il y a apparition de trous ou s'ils sont plus minces qu'elles étaient lorsqu'on les a pris la première fois.
Même si la recherche ne fait que commencer, ses retombées sont déjà bien tangibles.
On a pris conscience de l'impact que toute la pollution qu'on fait a sur la chaîne alimentaire. Et ça, on a besoin de se le faire répéter.
Exploramar invite les pêcheurs à remettre à l'eau les buccins marqués afin d'avoir le maximum de données possibles sur l'espèce. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, Sainte-Anne-des-Monts.
Voilà un exemple de science participative autour précisément de cette problématique de l'acidification. Gustavo Ferreira, qu'est-ce que vous avez observé alors avec vos équipes sur ce phénomène?
Bien, on a observé des effets de l'acidification, évidemment. Nous, on travaille sur la communauté planctonique, donc il y a des effets détectables. Mais lorsqu'on a fait la combinaison avec l'augmentation de la température, on note que les effets de la température sont encore plus forts. Donc, il y a une espèce de synergie entre les deux processus, mais la température, c'est elle qui joue jusqu'à un moment dans nos résultats, c'est ça qui manque.
Il y a une différence entre les eaux de surface et les eaux profondes aussi, justement, autour de cette acidification?
Oui, dans les Saint-Laurent. Vous savez, les phénomènes d'acidification proviennent des transferts de CO2 vers la colonne d'eau dans les eaux de surface.
Oui.
Cette CO2, en bonne partie, est utilisée pour la photosynthèse, la pompe biologique, c'est ça qu'on appelle. Normalement, avec l'augmentation des CO2, l'excès des CO2 qu'on a dans l'atmosphère, on a une sursaturation, puis ça amène à une acidification croissante. Ça, de façon globale. Dans les milieux côtiers, puis particulièrement dans le milieu de Saint-Laurent, que c'est très complexe, on a ces phénomènes dans les eaux de surface, qu'on s'attend à une augmentation de 0.3-0.4 unités de pH, de diminution de pH d'ici à la fin du siècle.
Oui.
Mais dans les fonds, on a déjà ce type d'augmentation. Ça, c'est notre phénomène parallèle. Quand on parle ici de l'acidification croissante durant les derniers 70 ans, on fait rappel principalement à cette acidification dans les fonds, qui se produit par un changement de la température, qui modifie un peu la concentration d'oxygène, etc., mais aussi pour une augmentation de la respiration dans les bentos et la colonne d'eau.
Quelles sont les conséquences pour la biodiversité sur les mollusques, par exemple? Vous avez publié sur cette question en 2011 un papier. Qu'est-ce que vous observez?
Ils sont affectés, évidemment. Tout ce qui est calcaire, c'est affecté.
Donc les coquilles des mollusques, par exemple, on voit un net changement avec l'acidification.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les courts termes, vous voyez. Maintenant, le grand défi, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer dans les longs termes, la partie adaptative des organismes, l'adaptation. Par exemple, dans les coccolithophores, c'est une espèce très fréquente dans la colonne d'eau. Si on fait un traitement court terme, on voit toujours un effet. Mm-hmm. Mais maintenant, on est en train de voir avec des expériences beaucoup plus longues et puis des observations de terrain beaucoup plus longues aussi, qu'il y a des lignages qui vont remplacer les autres, puis sont adaptés mm-hmm. déjà à synthétiser sans beaucoup de problèmes ces carbonates.
Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène d'acidification ?
Ah ben, il n'y a pas une solution évidente. L'unique solution, c'est palliatif, vous voyez, c'est diminuer les émissions, au moins pour se maintenir dans le niveau actuel, d'ici à la fin du siècle.
Donc c'est compliqué, hein. L'enjeu est de taille, hein, on le sait.
C'est ça, on donne les données, puis ça c'est des décisions politiques qui par l'intermédiation du public doit être prise.
Allez, on reste ensemble dans un instant. On va s'intéresser aussi à la question du krill avec Geshe Winkler et puis nos stagiaires étudiants qui ont plein de choses à nous raconter aussi sur leurs recherches ici sur le fleuve. Sur France Inter, suite de notre tête au carré, donc ici à Rimouski avec l'ACFAS autour des recherches autour du fleuve Saint-Laurent, justement avec nos invités. Et puis la visite, la rencontre avec également des étudiants français, Clémence, Camille, Elliot, stagiaire de master en deuxième année ici à Rimouski. Elliot, vous vous intéressez aux espèces invasives, alors pas dans le Saint-Laurent mais dans l'Arctique, hein, c'est ça ?
Moi je suis basé donc ici à Rimouski avec le laboratoire d'écologie benthique. Et mon équipe de Philippe Archambault et Jessica Gosmith, on s'occupe des espèces invasives donc dans plusieurs ports de l'Arctique canadien.
Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces milieux ?
Tout simplement, c'est que le réchauffement climatique, on suspecte qu'il va faire fondre la glace beaucoup plus rapidement. Ouais. Ce qui fait qu'on imagine qu'il va y avoir un trafic beaucoup plus intense sur les voies maritimes et notamment pour aller sur les ports canadiens en Arctique. Donc, ce qu'on imagine, c'est que les voies maritimes vont apporter avec elles des espèces potentiellement invasives, par exemple sur les coques des bateaux ou sur les eaux de ballast. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est faire des inventaires des espèces qui sont sur la zone en ce moment, pour ensuite, pour les recherches futures, arriver à savoir bah, ces espèces étaient là avant, et si on en rencontre une nouvelle, bah, y a une possibilité qu'elle ne soit pas là avant. Parce que le souci en écologie des invasions, c'est qu'on a très peu de recherches qui se font en amont. C'est toujours quand le phénomène est là et quand l'espèce est invasive, donc est vraiment installée, et donc c'est beaucoup plus difficile ensuite de la gérer.
Donc c'est de la surveillance, hein, vraiment.
C'est un peu de la surveillance.
Sur le changement de milieu en raison de l'arrivée de ces espèces nouvelles.
Et je trouve que le côté novateur de ce projet-là, c'est que justement on est vraiment en amont. C'est-à-dire qu'on prévoit quelque chose qui va se passer ensuite. Bon, on peut avoir tort, mais il y a quand même de très bonnes chances que le sujet arrive.
Vous êtes heureux ici au Québec ?
Je suis plutôt content, même le froid a été difficile pour l'adaptation.
L'hiver a été compliqué un petit peu pour vous.
On n'est pas habitué à ça en France.
Geisha Winkler, l'écologie du Saint-Laurent, la question du krill en particulier. Vous menez des recherches sur le phytoplancton des baleines, donc à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à déterminer exactement ? Racontez-nous ça.
Que j'ai dit déjà, le krill comme une espèce pivot dans l'écosystème est donc très important. Et on essaie de mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème-là. Ça veut dire, si on ne sait pas nécessairement comment les stocks de krill évoluent, on ne va pas être capable de déterminer comment les poissons, les baleines vont réagir aussi à des changements potentiels. Donc, le krill, c'est un groupe de crustacés. Donc, on a beaucoup de différentes espèces ici. Dans le golfe et l'estuaire, on a 4 espèces et 2 sont dominants. Donc, une espèce qui est beaucoup plus adaptée à des zones tempérées et l'autre beaucoup plus arctique. Donc, ils se rejoignent ici et leur écologie est pas similaire, donc il va se différer. Il faut trouver tous ces détails-là pour arriver à estimer, évaluer les stocks de krill.
Michel Fournier, au fond, en vous écoutant, on s'aperçoit que tout ici dans ce fleuve a des conséquences, il y a des interactions avec toutes les espèces les unes avec les autres, et il y a des effets en cascade finalement.
Il y a de nombreux polluants qui, par le biais de la chaîne trophique, peuvent affecter un grand nombre d'organismes, qu'on parle des invertébrés marins, en montant jusqu'au béluga. De sorte que l'impact sur les écosystèmes est énorme. Et souvent, pour des approches de mesure de ces impacts, on va utiliser différentes espèces animales. On peut s'intéresser à des mammifères marins, phoques, bélugas. Mais c'est des espèces qui se déplacent énormément, donc ils intègrent l'ensemble du bassin versant. Pour des études plus ponctuelles, on va prendre des espèces qui se déplacent peu, comme la moule ou d'autres espèces d'invertébrés.
Clémence, Camille, Elliott, vous avez vu des baleines depuis que vous êtes arrivée ici au Québec ou pas?
Non, hélas, non.
C'est vrai? Non, mais alors c'est pareil. Moi, j'ai essayé d'en voir là, ici au bord du Saint-Laurent, mais Geisha, apparemment, c'est assez compliqué. Elles ne sont pas ici, en tout cas dans cette partie-là du fleuve?
Oui, on peut les voir, mais c'est tôt dans la saison. Ils viennent d'arriver, les grands rocales qui font des grandes migrations vers le sud pendant l'hiver. Donc, ils vont revenir bientôt. Les bélugas, ils sont dans le système toute l'année. Donc, des fois, on a la chance de les voir quand on prend un traversier ou on va dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent pour évidemment les observer. Et de la côte nord, c'est beaucoup plus facile de les voir à partir de la terre parce que la morphologie de notre estuaire fait en sorte que le chenal profond tombe très vite, le talus de la côte nord. Pendant nous ici, c'est beaucoup plus douce la pente. Donc, les mammifères, ils ne viennent pas nécessairement très proche de la côte sud du Saint-Laurent.
Alors, le krill, justement, vous le disiez, ce sont des tout petits crustacés. Il faut imaginer quoi? Des petites crevettes, en fait, toutes petites?
Oui, c'est ça. C'est des petites crevettes qui sont plus minces qu'est-ce qu'on mange, comme la crevette nord du Nord ou la crevette grise en France. Et ils ont beaucoup plus de pattes et ils ont des luminophores. Donc, ça, c'est des grandes différences entre les
Qu'est-ce que c'est que les luminophores, alors? Ce sont des petites lumières pour les voir la nuit ou...?
C'est les cellules qu'ils ont sur leur corps qui peuvent s'allumer. C'est la bioluminescence qu'ils font.
C'est ça.
On ne comprend pas encore très bien
comment ça fonctionne.
Mais chimiquement, je pense oui. Mais pourquoi ils le font? C'est pas encore clair.
Alors le krill, justement, ce sont ces petites crevettes qui servent donc à la nourriture des baleines. Et ça se déplace en bande, c'est ça? Il faut imaginer des masses très très importantes de krill.
Oui, tout à fait. Les krill, différentes espèces, ils forment différents agrégats. Et on a une espèce qui est moins dense, mais ils forment des bancs beaucoup plus grands. Pendant d'autres, une autre espèce forme des bancs plus petits, mais beaucoup plus denses. Donc, et leur valeur énergétique est différente. Donc, les consommateurs, ils peuvent choisir un peu dans leurs assiettes pour trouver la meilleure nourriture qu'il faut pour gagner la réserve.
Geshe Winkler, qu'est-ce que vous observez justement autour de ce krill si fondamental pour le fleuve Saint-Laurent et sur les menaces peut-être qui pèsent en tout cas sur ces organismes?
Je pense pour l'instant, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de différents facteurs qui jouent, comme on a vu l'acidification, l'augmentation de température. Il y a d'autres enjeux peut-être, comme les contaminants. Donc, qu'est-ce que nous, dans notre projet, on regarde plutôt, c'est les variations interannuelles des biomasses. Et là, on est capable de relier ça le plus facilement pour l'instant avec la température. Et pendant les dernières années, on a vu que la biomasse totale n'a pas changé dans le système, mais plutôt la composition des espèces. Comme j'ai dit, l'espèce arctique est plutôt favorisée en termes de biomasse dans les années plus froides, pendant l'espèce beaucoup plus tempérée est beaucoup plus favorisée de se reproduire et de monter sa population dans les années plus chaudes.
Et ça, ça impacte directement les cétacés, ces changements observés?
On n'est pas encore rendu là. C'est sûr que ça pourrait les impacter, étant donné que, par exemple, la rocaille bleue, elle est très spécialiste du krill et en trop de une krill en...
Parmi les espèces dont vous parliez.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, si l'autre espèce est beaucoup plus abondante, il faut peut-être qu'il change sa orientation du krill, qu'est-ce qu'il va manger. Et il y a d'autres espèces comme la rocaille à bosse ou la rocaille commun que eux, de toute façon, ils se nourrissent pas seulement du krill, mais aussi des petits poissons, comme le caplan, la rein.
Donc, il y a des alternatives.
Il y a des alternatives, évidemment.
Allez, la suite de vos recherches, évidemment, elles sont importantes ici, donc autour du krill du Saint-Laurent. On reste les pieds dans l'eau avec Michel Fournier dans un instant pour parler de toxicologie des organismes marins.
So let's
Paradis perdu, Christine and the Queen sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, au bord du fleuve Saint-Laurent, à l'invitation de l'ACFAS, 83e édition de ce congrès. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe ici, vous avez un site internet de l'ACFAS qui est en lien sur la tête au carré. Vous avez la page Facebook de l'ACFAS, vous avez le compte Twitter de l'ACFAS. Bref, pour suivre exactement ce que nous vivons ici. À Rimouski, avec également nos Français. Il y en a beaucoup d'ailleurs, Elliot, des étudiants français ici, oui, visiblement.
Il y en a vraiment beaucoup. C'est assez intéressant de venir au Québec ici. Pour
Clémence et Camille qui travaillent sur l'impact du pétrole sur les moules bleues. Comment un beau jour, justement, Clémence, vous avez choisi ce sujet?
Ben, je trouvais ça intéressant parce que c'est un sujet qui est d'actualité et qui nous concerne tous. Mmh. Et pourquoi sur la moule bleue? Parce que c'est, je trouve que c'est un organisme qui, comme l'a dit M. Fournier tout à l'heure, est sentinelle et il ne bouge pas de l'endroit où il se trouve.
Ouais.
Du coup, il est plus représentatif des contaminants qui peuvent lui arriver.
Camille, le pétrole, donc ça fait partie justement de ces contaminants problématiques pour la moule bleue?
Oui, ça peut faire partie pour une marée noire là, des contaminants. Puis c'est pas tellement sur la moule bleue uniquement qui nous intéresse, mais c'est un bon modèle d'étude pour voir les dégâts que le pétrole peut causer. Et puis à partir de quelle quantité de pétrole ça va vraiment devenir un gros danger pour l'environnement.
Alors hier, vous avez suivi la journée de colloque avec Michel Fournier, c'est ça
fait,
en élève sage, vous êtes venu passer toute la journée. Vous avez appris des choses aussi par rapport à votre sujet?
C'était intéressant de voir tous les autres sujets qui étaient axés aussi sur le même modèle d'étude. Parce que nous, c'est vrai qu'on... pour moi, c'était la première fois là que je travaillais sur la moule bleue. Donc c'était intéressant de voir les autres techniques et qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autres comme démarche.
Vous avez presque pris l'accent québécois dans votre phrase. Il y a des petites intonations déjà.
Ça vient.
Michel Fournier, l'écotoxicologie marine, l'impact sur la santé des populations justement de moules. Vous êtes co-directeur du réseau EcoBIM. De quoi s'occupe ce réseau exactement?
C'est un réseau franco-québécois qui focalise sur les recherches en écotoxicologie, un peu qui a été mis sur pied au début des années 2000. Vous savez, en écotoxicologie, on met à contribution des spécialistes de différentes disciplines, de la chimie jusqu'à la biologie moléculaire, en passant par de l'écologie. De sorte qu'il y a une tradition de collaboration à l'intérieur des gens qui œuvrent en écotoxicologie. Et on avait nos collègues français avec qui on s'entendait bien depuis plusieurs années avec des échanges. Fait qu'on a décidé de mettre en place ce réseau. Et dans le cadre du réseau, on a fait aussi plusieurs colloques dans le but de se trouver des sites sur lesquels on pouvait collectivement travailler. Ce qu'on a appelé les sites ateliers du réseau. Ils sont maintenant distribués de l'océan Arctique jusqu'à aux terres australes et antarctiques françaises, comme l'archipel des Kerguelen, et en France et au Québec, de part et d'autre de l'Atlantique. Et on a aussi décidé de mettre en commun nos ressources en étudiant les mêmes espèces animales.
Oui.
Et la présence de la moule bleue dans tous ces sites, de l'Arctique à l'Antarctique.
C'est ça.
Et de chaque côté de l'Atlantique.
Et en France aussi,
Oui.
Vous travaillez avec les
gens de l'UBO.
L'Aquitaine, par exemple.
Oui, avec les gens de Bordeaux 1, Hélène Bozinski pour les collèges chimiques. Le co-directeur du réseau est à l'Université de Bretagne occidentale. C'est le professeur Michel Auffray. Et on a des collaborations avec les gens de l'Université de Cannes, l'Université du Havre.
Est-ce que la toxicologie, justement, sur les organismes marins, c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui?
Qui devrait prendre de l'ampleur parce que certains toxiques changent ou diminuent à cause des législations, mais l'industrie réagit en changeant les molécules, de sorte que de nouvelles molécules apparaissent. Il y a beaucoup de polluants qui nous viennent aussi d'activités humaines, comme l'agriculture qui se retrouve en milieu marin et qui peuvent impacter les systèmes côtiers. Ouais.
Donc la moule bleue, on le disait tout à l'heure, c'est ce que vous appelez une espèce sentinelle, donc une espèce référente pour pouvoir étudier de près ce phénomène de toxicité, en tout cas sur un organisme marin comme la moule, avec l'avantage justement d'un organisme qui reste fixé.
Oui, et une moule bleue va filtrer entre 40 et 50 litres d'eau par jour, de sorte qu'elle va incorporer dans ses tissus tout ce qui va se retrouver dans l'échantillon d'eau ou dans la colonne d'eau dans laquelle elle vit. Et il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser, des expositions in vitro sur les cellules. On peut déménager des moules bleues d'un site contaminé vers un site propre pour voir si on enlève la pollution, est-ce qu'ils vont récupérer.
Et alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a une résilience de la moule bleue ou pas?
Oui, certains, dépendant des atteintes, des niveaux d'atteinte, certaines peuvent récupérer dans des cas d'exposition à différentes classes plus toxiques. Généralement, c'est condamné.
Ouais. Est-ce que certains polluants agissent plus sur des organismes comme les moules, par exemple?
Oui, il y a entre autres les métaux, il y a beaucoup de polluants organiques et aussi beaucoup de contaminants qui peuvent mimer l'action d'hormones, qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui ont des effets excessivement néfastes sur tous les niveaux d'organisation biologique de la moule, que ce soit des molécules jusqu'aux populations.
Qu'est-ce qu'on observe comme contaminant, principalement dans le fleuve Saint-Laurent, par exemple? Qu'est-ce qui pose problème?
De plus en plus, on observe des augmentations de produits d'usage domestique ou médicaux, des métabolites de médicaments, encore des métabolites communs. Un des plus, à mon sens, impactants, c'est le métabolite de la pilule contraceptive qui agit directement en mimant des hormones. Mais qui va avoir le courage d'aller interdire la pilule contraceptive?
Oui.
Je pense qu'elle ne survivrait pas longtemps.
Donc, c'est un vrai dilemme?
Oui, c'est un choix de société qu'on aura à débattre un jour ou l'autre, le plus tôt possible.
Et la difficulté de changer les mentalités aussi, autour de ces questions et de ces pollutions donc, que vous étudiez, que vous observez ici sur le fleuve Saint-Laurent. Voilà, c'était une occasion, en tout cas pour nous, d'essayer de voir un petit peu comment les chercheurs travaillaient sur un fleuve très emblématique, en tout cas, et qui coule ici devant nous à Rimouski. Merci infiniment, Gage Winkler, Gustavo Ferreira et Michel Fournier, d'être venus nous en parler. Bon congrès de l'ACFAS à vous. Et puis Clémence, Camille et Elliot, profitez bien de ces quelques mois québécois.
Merci beaucoup.
Avant de rentrer en France, puisque vous allez repartir, j'imagine aussi, retrouver les vôtres. Merci au public de l'ACFAS, merci aux Français aussi qui étaient présents, voilà, qui viennent passer des vacances à Rimouski, qui se rappellent aussi quelques années d'études pour certains d'entre eux ici, comme c'est le cas d'une auditrice française qui est venue nous saluer tout à l'heure. Passez une excellente journée. C'est terminé pour cette tête au carré. Je crois qu'on a même un petit générique de fin offert par la maison. Et pour vous dire que nous reviendrons demain, ce sera la troisième émission ici, donc toujours à Rimouski. Passez une excellente journée à l'écoute de France Inter. Dans un instant, ce sera Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bonne journée.